Donc vous avez ici notre logo, le monde en russe se dit Mir. Et vous avez le symbole de la paix avec la colombe, et la paix se dit aussi Mir, ça s'écrit pareil. Et les Russes ont envoyé dans l'atmosphère la station Mir pour apporter la paix sur la Terre. Pensez donc. Alors nous sommes les messagers de la paix, nous avons un site internet qui est intéressant, avec des liens aussi, avec l'Allemagne, avec les pays de l'Est, on pourrait dire ça. Et l'ordre du Seigneur demeure, donnez-leur vous-même à manger et allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Voilà les bâtiments de la mission en Allemagne qui s'appelle Friedensbote, ça veut dire messager de la paix, avec plusieurs étages, avec une imprimerie. Voilà l'imprimerie, vous voyez les machines qui coûtent très cher, imaginez-vous tout cela, et qui donc imprime dans toutes les langues, parce qu'il n'y a pas que du russe, il n'y a pas que du slave, il y a aussi du géorgien qui ne s'écrit pas du tout pareil. D'ailleurs, mon témoignage, mais je ne l'ai peut-être pas mis là-bas, est traduit aussi en géorgien, en allemand et en russe. Alors voilà le champ missionnaire, avec les différentes religions, si on peut dire, ou attraits religieux, l'animisme dans le Grand Nord, l'islam, bien sûr, dans le sud, et puis l'orthodoxie par là, et puis l'islam encore. La Russie, immense pays, 17 millions de kilomètres carrés, avec, on ira faire un tour du côté de la Yakoutie, avec Yakoutsk, Magadan, etc., Norilsk. Voilà le drapeau russe, je passe vite, ça c'est le drapeau Yakout, parce que la Russie, ce n'est pas un seul monobloc, une seule nation. C'est composé d'une multitude de 80 républiques, en fait. Des petites républiques, hein, comme on pourrait s'imaginer un peu quand on parle dans la Bible, il y avait le roi d'un tel, ce n'était pas des rois de grands pays, c'était des fois simplement d'un chef-lieu de canton, si vous allez voir, mais là-bas c'est un peu plus grand. Alors vous êtes là, il vous souhaite la bienvenue dans le grand froid, avec cette camionnette qui sert donc pour aller, on l'appelle le chasseur, avec l'équipe de pionniers là-bas de Yakout. L'étendue est blanche. Je suis allé en Nouvelle-Calédonie il y a 3 ans. On a survolé toutes ces régions-là pendant plusieurs heures, rien que du blanc en dessous, pendant plusieurs heures à 800 km/h, hein, imaginez-vous. Donc les chrétiens ou autres qui étaient déportés dans les goulags, impossible de se sauver. Voilà donc des étendues immenses, il faut traverser, il faut connaître. Les Yakouts connaissent un peu la région, heureusement d'ailleurs. Là, il est armé, non pas pour tirer sur les gens, hein, soyez tranquilles, mais tout simplement parce que les villages ou les villes ou les campements sont très éloignés les uns des autres, mais il y a quand même du gibier qui se balade par là, et donc ils cassent la croûte en se faisant eux-mêmes leur... Là, c'est des perdrix qui sont normalement grises l'été, et qui deviennent blanches l'hiver. Là, c'est l'autoroute, vous voyez, l'autoroute, c'est magnifique, hein, c'est tout blanc. Alors, je ne sais pas si ça vous dit d'aller passer vos vacances là-bas, peut-être vous préférez le printemps ou le dégel, en tout cas, vous allez voir. Je vous conseille quand même plutôt d'aller en hiver, moi, parce que le printemps, ce n'est pas terrible. Tout simplement parce que le sol gèle jusqu'à 3 mètres hein, de profondeur. Il fait jusqu'à moins 60. Le plus bas, ça a été moins 72, hein. Donc ça gèle 3 mètres, mais ça dégèle qu'un mètre. Si bien que l'eau ne pénètre pas, c'est de la gadoue, tout simplement. Alors il y en a beaucoup qui s'y perdent et qui veulent quand même y aller, ils se disent « on va essayer ». Alors ceux-là, ils sont, voilà. Hein, donc si vous voulez passer vos vacances, c'est mieux l'hiver que le printemps, hein. Voilà. Mais il faut quand même y aller avec le chasseur, là ils vont donc aller partout le monde. La Yakoutie, le Grand Nord, est surtout animiste. Avec naturellement des offrandes, là c'est des offrandes de cigarettes ou des bonbons, vous voyez. Ça paraît peu, mais c'est cher pour eux, c'est très cher. Mais ils offrent aussi des jeunes reines, etc., des sacrifices sanglants. Alors ils suspendent des bouts de vêtements ou de choses appartenant aux uns et aux autres dans les petits bosquets, parce que comme ils croient aux esprits du vent, de la neige, de la pluie, etc., ils pensent que le vent, en passant, les esprits du vent vont exaucer leurs vœux. Mais c'est faux. Autant de chiffons noués, autant d'âmes liées. Bon, il est à l'envers, je ne sais pas pourquoi. sur mon ordinateur à moi, il est à l'endroit. Mais bon, c'est pas le mien, hein. C'est le sien, je ne sais pas à moi qui c'est. Bon. Animiste, chaman, donc vous voyez, il est dans sa tente, son tipi est un peu plus haut que les autres et un peu plus beau, mais il y fait aussi froid, vous voyez comme il est habillé à l'intérieur. Ces gens-là ne se lavent pratiquement jamais, il fait trop froid. Mais le chasseur aussi est un objet qui peut tomber en panne, et quand la panne arrive, eh bien, il faut tout vider pour pouvoir réparer le pneu, là c'est un pneu crevé. Et comment enlever les boulons, si ce n'est avec un chalumeau, évidemment. Vous ne pouvez pas sortir les boulons comme ça, il faut réchauffer les boulons au chalumeau. Mais ils peuvent rendre grâce à Dieu qui a donné les rennes comme nourriture, comme vêtements, comme chaussures, comme tout, fil à pêche, etc. On trouve tout dans le renne. Et c'est un animal qui se nourrit pratiquement de rien, de la mousse. Hein. Alors il gratte, il a des pattes assez palmées, il gratte. Assez profondément, ils se nourrissent. Mais ils sont gras, je peux vous assurer qu'ils sont gras. Voilà une église de maisons, vous voyez les grosses maisons qu'ils ont hein, dans le Grand Nord. C'est des ramassis de tout ce qu'ils ont pu faire pour essayer de se bâtir une maison. L'église où se trouvent Saïd Protopopov et son épouse Natacha. Voilà Saïd ici, Natacha. Ça c'est Alexander Goss, responsable, comme je le suis pour la France, pour l'Allemagne. À ce jeune couple, alors je vous le recommande à vos prières, Saïd et Natacha. Alors Saïd a grandi, si on peut dire, dans un foyer d'ivrogne. Il y a énormément d'alcoolisme dans les pays de l'Est. Et il a vécu là, et à 5 ans, sa mère était battue, mise à nu la nuit. Il a vu son père jeter sa mère dehors nue, il ne l'a plus jamais revue. Il ne sait pas si c'est les chiens ou les loups qui ont fait le ménage, en tout cas c'est comme ça. Et il n'y a jamais d'enquête évidemment. Donc il a grandi avec cette hantise de sa mère, mais un jour, ça vaut le coup, vous voyez, que des missionnaires aillent dans le Grand Nord, même si on rencontre peu de personnes, il a touché son cœur, il est devenu donc enfant de Dieu, nouvelle création et ambassadeur pour Christ là où il est. Maintenant, il est pasteur donc de cette communauté avec Natacha qui, elle aussi, a beaucoup souffert de par sa mère. Son père est mort alcoolique, sa mère était une femme très violente, et, etc. Je passe parce que ça fait trop long. On les avait rencontrés en Allemagne, là. Alors, on redescend un peu au Tatarstan, les Tatars, vous avez entendu parler des Tatars. À Kazan, qui est une grosse ville, il y a une sorte de concurrence entre l'État, il y a une flèche, les orthodoxes en ont 3, et l'islam en a mis 4. D'ordinaire, quand vous voyez une mosquée, vous verrez un seul minaret. Là, ils en ont mis 4 pour montrer qu'ils étaient supérieurs à tous et qu'ils islamiseraient le monde entier. Il y a tous les bâtiments que vous voyez en dessous, là, c'est une université de formation d'imams pour convertir à l'islam tous les pays russophones et même au-delà. Donc l'islam gagne. Pourquoi ? Parce que la chrétienté n'a pas été fidèle, tout simplement. Alors des petites mosquées, vous voyez, ce n'est pas des mosquées comme en Afrique du Nord ou dans les pays du Qatar ou des pays du Golfe ou de je ne sais pas moi, plein de mosaïques, des belles choses. Non, là c'est très simple. Alors, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'ils ne se contentent pas d'appeler à la prière, mais ils prêchent, ils exposent, avec tous les beaux côtés, évidemment, pour montrer qu'à l'Est, à l'Ouest plutôt, les populations chrétiennes sont corrompues. Dans un sens, ils ont raison, malheureusement. Et alors, ils apportent leur philosophie, leur religion, et ça marche. Même des popes, hein, donc orthodoxes, se sont convertis et deviennent extrêmement virulents, et prêche à la radio, etc., contre la Bible, contre le christianisme. Même les puits d'eau appartiennent à Mohammed, vous voyez. Donc là, nous avons cette famille-là, Alexandre Dresvianikov, on le reverra peut-être plus tard, avec son épouse. Ils sont malades tous les deux. Lui est très malade du cœur, on devrait l'opérer. On l'a rencontré au mois de septembre, octobre, je ne sais plus, en Biélorussie. Et son épouse est diabétique. Ils ont 9 enfants. Les aînés sont déjà au Seigneur, baptisés, etc. Alors il a une nécessité, il y a eu beaucoup de conversions, mais pas d'enseignement. Si bien que beaucoup s'autoproclament pasteurs, etc. Et ils apportent ce qu'ils pensent être, ce n'est plus la parole. Donc il est nécessaire d'aller leur faire des séminaires de formation pour les adultes, pour les pasteurs, les anciens, les écoles du dimanche, etc. Et là nous avons Michel Petrosian qui est à Paris, lui il est féru dans les langues, il parle couramment l'arménien, le russe, l'anglais, le français. J'ai été faire une tournée en Estonie avec lui. Un autre couple, c'est Maiboroda, dans l'extrême est aussi. Alors elle a eu le cancer du sein, l'a fait opérer en Ukraine, et elle est retournée avec son jeune mari, là, et leurs trois enfants. Ne regarde pas, ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui les a sauvés. Alors là, par contre, ils ont inventé un truc, ils n'avaient pas de baignoire, ils n'avaient pas de grand confort, ils ont inventé le baptistère vertical. Voilà. Alors moi, je pense toujours, c'est facile de la descendre, mais après, pour la ressortir, c'est pas pareil. Mais bon, c'est comme ça. Merci Seigneur pour les âmes qui s'ajoutent, quel que soit le mode du baptême. On va en Kirghizie, petit pays aussi, où il y a eu pas mal de tourmentes l'année passée, il y a eu beaucoup de morts, et on avait peur pour les antennes chrétiennes, qu'elles soient de notre mission ou d'autres, mais c'est le contraire qui s'est passé. Beaucoup se sont réfugiés dans les églises chrétiennes pour avoir du secours. Ils se battaient entre eux, surtout avec les Ouzbeks qui venaient d'envahir leur pays. La yourte, c'est la tente de ces pays-là, qui est représentée là avec tous les rayons qui montrent les tribus. Pays de montagne, bien entendu, un peu comme en Afghanistan ou au Pakistan, etc. Pas facile d'aller débusquer les bandits par là. Des mosquées modernes, vous ne verrez pas des mosquées, encore une fois, comme en Afrique du Nord ou en Arabie Saoudite, mais des petites mosquées. Beaucoup. Beaucoup de gens qui vivent donc sous des yourtes comme ça, des tentes qui sont très épaisses, qui les mettent à l'abri du froid l'hiver et de la chaleur l'été. Et là, il faut donc apporter la parole. Donc, j'avais rencontré ce frère à gauche, là, en Allemagne aussi. Leur apporter la parole, ils n'ont pas les moyens d'acheter l'écriture, ils n'ont pas d'argent, si on peut dire. Donc, il faut leur donner. Bien entendu, cela coûte. Mais on est tellement heureux quand on voit un frère comme celui-ci, par exemple, Aman, qui aussi était un ancien musulman et qui est maintenant pasteur d'une petite assemblée, là. Et puis tout cela débouche sur, évidemment, des baptêmes dans le lac. Et cette fois-ci, ce sera moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et non pas les hommes servent l'Éternel et les femmes sont en bas, sont écrasées. Non, c'est moi et ma maison. Il y a égalité sur le plan divin de la valeur des personnes, avec naturellement des prérogatives particulières pour l'homme ou pour la femme, dans la maison comme dans l'église. On va en Ukraine, grand pays aussi, qui était le grenier à grains de l'ex-URSS, et où il y a beaucoup de misère maintenant. Pourquoi ? Parce que la Russie possède le gaz et le pétrole, et le machinisme. Et l'Ukraine était chargée d'apporter les victuailles, en quelque sorte, de travailler les champs. Et comme ils ont repris leur indépendance, évidemment, le pétrole et le gaz est coupé, les machines aussi, et donc il faut qu'ils reconstituent tout ça, qu'ils se débrouillent comme ils peuvent. Alors vous avez Kiev ici et Tchernobyl ici. Entre Kiev et Tchernobyl, il y a notre station missionnaire ici. Je suis allé déjà plusieurs fois. Les points noirs représentent toutes les villages, les villes qui ont disparu. Évidemment, c'est interdit, surtout dans les parties les plus vertes, ça va un peu moins ensuite. Il y a encore des points rouges. Et maintenant, la population qui était partie de là a tendance à y revenir parce que les autorités ont déclaré que le problème de la radioactivité était réglé. Il n'y a plus de danger. C'est dramatique. Donc ils remontent là-bas, ils vont y vivre. Alors l'évangélisation, c'est comme on peut. On va de village en village, on va vers les gens qui sont encore là, des petites gens, des pauvres, qui vivent en autarcie avec quelques poules, un cochon, etc., une vache. On était reçu chez un aveugle à ma droite, là, extrêmement ému, quand je lui parlais du Seigneur et de mon témoignage, etc. On peut par contre, là-bas, prêcher librement, un peu partout. Là, on est devant une maison de la culture qui était fermée. Donc, on commence par chanter quelques cantiques, et puis les gens des environs viennent et ils vont écouter l'Évangile. Puis ensuite, il y aura des contacts, etc. Ça fait drôle quand même de se rappeler, le Seigneur avait dit, allez le long des haies, etc., hein, chercher les perdus. C'est un peu ce que nous faisions là. Annoncer l'Évangile, vous avez le paysan qui vient avec sa charrette, et puis c'est la femme après avec ses vaches. C'est très folklorique. Ça, par contre, ça l'est moins. Il faut savoir qu'il y a énormément de déchets dus à l'alcool. C'est pire que Tchernobyl. Et les alcooliques, donc, souvent battent leur femme, etc. Et là, il y a un alcoolique qui a perdu sa femme. Il avait deux petites filles et il s'est remarié, ou accolé, si on veut, avec le diable, on peut dire. Et un beau jour, les deux gamines ont disparu. Et les voisines ont trouvé ça bizarre, elles ont alerté la police. On les a retrouvées nues, tondues, enchaînées au fond d'une cave. Elles seraient certainement mortes. Et donc ça, c'est le couple Rechetnik, Tatiana et Vladimir, qui visitent là. Alors c'est marrant parce qu'ils leur font mettre des blouses, comme quoi ils ne risquent pas d'amener des microbes, comme s'il n'y avait pas des microbes dans cet orphelinat de misère. Voilà les deux petites, donc très heureuses maintenant d'avoir une robe et de pouvoir avoir une petite consolation. Tous ces petits bouts de choux-là sont des enfants battus, abandonnés, etc. Soit les parents sont en prison, etc. On va faire un tour dans les Carpates, très belle région, un peu comme dans les Vosges ou le Jura. Alors là, nous avons plusieurs stations, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais en voilà une, c'est Staïché, où il n'y avait rien il y a quelques années de cela, quand j'ai commencé à aller par là. Et on a acheté ce terrain, et maintenant il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les enfants, les camps d'enfants, c'était extrêmement important. Là, c'est un diacre qui est cuisinier de son métier, mais qui sert le Seigneur tout le temps libre dans cette région. Il faut nourrir les enfants. Tout ça, bien entendu, est gratuit pour eux. C'est la mission qui paye. L'Allemagne a apporté des mobiles de chantier, des mobiles hommes de chantier, pour servir de dortoir. C'est bien pratique. On peut en mettre 10 par côté. Donc, ça fait beaucoup. Voilà Piotr Nastasichuk, pionnier des Carpates. Il a fondé plusieurs églises dans la chaîne des Carpates. On peut rendre grâce à Dieu pour de tels serviteurs. Alors, dans cette colonie-là, ils peuvent accueillir pendant l'été jusqu'à 1200 enfants. Mais c'est selon l'argent qu'on leur donnera. Évidemment, ils ne vont pas inviter des enfants à venir s'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Donc, c'est à nous à pourvoir. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. À celui qui vaincra, je donnerai. Dieu est toujours prêt à donner aux vainqueurs. Leur apprendre à prier, à être respectueux, quoi qu'il le soit. Même j'ai été dans les bas-fonds où il y avait des enfants des égouts. Dès que l'on leur disait « avant de manger ce qu'on vous apporte, on va rendre grâce ». Eh bien, je vous assure qu'ils étaient respectueux, ils ne rigolaient pas. Instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, ça c'est une monitrice, donc j'ai connu jeune fille, maintenant elle est mariée. Le culte le dimanche dans ce camp de Staïché. Bien sûr, il y a aussi des promenades dans la campagne, des baignades, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. L'eau est fraîche, hein, ça descend de la montagne, je vous dis que ce n'est pas très chaud. Hein. D'ailleurs, on le voit là, hein. Ouh là. Et pourtant, c'est là qu'ils vont être aussi baptisés. C'est bien aimé, il y aura donc des baptêmes là. Voilà, immersion. Je ne vous explique pas ce que ça veut dire parce que ce serait trop long. Les frères le savent et puis pourront vous le dire. On est très reconnaissant aussi du fait que les jeunes qui sont saisis par le Seigneur comprennent qu'il ne faut pas qu'ils recherchent leur bien-être sur la terre, mais qu'ils se mettent à la disposition de la population. Là, nous avons deux jeunes garçons qui sont maintenant mariés, mais qui, au lieu de partir, gagner leur vie ailleurs, sont restés pour enseigner. Donc, ils sont diacres. Là, c'est Philippe, Philippe Chou qui s'appelle. Là, c'est l'autre frère. Alors, celui qui impose les mains, là, c'est Leonid Kachov. Quand on était là-bas en Ukraine, il y avait la préparation des camps d'été. Vous devez peut-être, pour ceux qui ont lu les bulletins, son fils qui était au Seigneur et qui s'était fait baptiser l'année précédente a, on peut dire, vidé son abricotier, de tous les abricots, des seaux entiers pour la colonie. Il en restait les plus beaux en haut. Il dit, je vais aller les chercher, je vais aller les chercher. Il est allé les chercher, mais c'était fini. La branche a cassé, il s'est planté au niveau du foie sur un piquet. 20 minutes après, il était mort. Ça a été pour nous un drame, une souffrance terrible, et pour les parents aussi. Eh bien, un mois après, c'est lui, le papa, qui vient imposer les mains à ces jeunes-là en leur disant, ayez confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. Il était bien placé pour le savoir. Donc, les voilà. Alors, ce sont deux frères en Christ, évidemment, mais ce sont, en fait, les deux filles, là, sont des jumelles, les deux jumelles. Il y a la fête des moissons aussi, ça ne se fait pas tellement ici, mais enfin là-bas, oui. Donc, à l'arrière-saison, mois de septembre, généralement. Là, il y en a un qui a eu la bonne idée d'écrire sur sa petite citrouille toute petite dans le jardin, « Dieu est amour ». Et quand la citrouille a grandi, bien entendu, on voit maintenant, bien comme il faut, Dieu est amour, là, en russe, donc, là. Si des fois vous avez des citrouilles, essayez de le faire, hein. Ça vaut peut-être la peine. Et ensuite, la mettre sur le marché, bien exposée. Bon, l'hiver aussi, donc, il y a le service dans les Carpates, hein. Bien sûr, il ne s'agit pas de monter dans les montagnes, ce n'est pas possible, donc ils mettent sur des traîneaux à chevaux, il faut aller. L'ordre reste, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, non pas seulement quand il fait beau, mais aussi quand il fait froid. L'adoption des enfants aussi est un gros problème. Des milliers, des centaines de milliers d'enfants sont abandonnés, comme les petits que vous avez vus tout à l'heure. Et donc voilà, un couple de diacres qui en avait adopté 6 et qui maintenant en ont adopté 4 autres, puisque les 6 premiers, il n'en reste plus qu'un, c'est Sergueï qui est là. L'autre ici travaille en ville et à son logement. Alors vous les voyez là, bien mignons, vous voyez là, mais il faut se méfier parce qu'ils vous embrassent, ils sont très affectueux, mais il y a une main qui se détache qui vous fait les poches. Ça, c'est comme ça. Quand vous entrez dans votre chambre, il faut surtout refermer la porte à clé tout de suite. Sinon, ils entrent et puis ils ouvrent votre valise, ils prennent, hop, ils se sauvent. C'est comme ça. Alors, leur apprendre à travailler, là, c'est apprendre à réparer des bicyclettes, tout simplement, pour que quand ils seront grands, qu'ils voudront se marier, ils ont au moins un petit métier pour gagner leur croûte et élever leur famille. Voilà la polyctine. Donc, il y a beaucoup de bébés abandonnés aussi, qui est le fruit des enfants perdus dans les égouts, etc., les gamines et les gamins qui se mélangent, les prostituées, etc., qui abandonnent les enfants, elles n'ont pas de quoi se nourrir elles-mêmes, donc elles ont pitié de l'enfant, elles le mettent sous un porche, etc. Ils sont rattrapés, mis dans des orphelinats d'enfants, de bébés, jusqu'à l'âge de 4 ans. Et donc, vous voyez là, ils sont magnifiques, mais en fait, 90% d'entre eux sont déjà ou sidéens ou alcooliques, ou les deux, de par leurs parents. Donc, c'est dramatique. Et là, nous y allons assez souvent pour apporter de l'aide, des médicaments, etc. Donc, je passe parce que ça avance, là. Alors là, c'est un goûter particulier avec des pastèques, on leur donne des glaces aussi. Mais là, c'est un orphelinat d'État. Mais les frères ont la capacité, l'autorisation d'aller, puisqu'ils apportent des biens matériels, aussi d'annoncer l'évangile, de faire l'école du dimanche, etc. C'est une très belle entrée. Sinon, ben, l'hiver ou l'été, là c'était sur une décharge publique, j'étais allé avec lui, ben, deux garçons qui ont été abusés, parce qu'ils sont abusés la nuit, garçons ou filles, hein, dans les gares, un peu partout, dans les rues. par des adultes, qui les paient en leur donnant un peu d'alcool. Là, ce sont des bières. Donc il faut essayer de les réveiller, de les amener à la maison. S'ils veulent bien accepter une douche, ils le feront, sinon ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont souvent fiers d'être une puanteur par rapport à la société qui les a rejetés. Et donc ils aiment empester les autres, si on peut dire. Mais il faut aller donc dans les égouts, vous voyez, il fait meilleur à l'intérieur, mais c'est un champ de culture de microbes, pour la tuberculose, les maladies de la peau, le sida. C'est dramatique. Mais l'ordre du Seigneur, c'est d'aller par tout le monde, et on pourrait dire même dans le sous-monde. Cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Je ne sais pas si ça vous arrive encore de le chanter, mais réfléchissez bien. Eux, ils le font. Sinon, ben voilà, ils iront en prison. Ces jeunes-là, qui sont entre 14 et 18 ans, sont des gosses qui ont été pris, la main dans le sac, parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Et donc, ils sont mis là. Il y en a qui sont récidivistes. Vous pensez là qu'ils ont des beaux visages, mais il y a dans leur cœur une haine terrible contre toute autorité, l'autorité parentale. Ils ont vu des abominations sous leurs yeux, entre le papa et la maman. Ils ont pris des coups. Allergique à la police, bien entendu, qui court après dans les rues, allergique au clergé, qui leur dit « sale gosse, vous irez en enfer ». Il faut leur apporter la parole. Et je vous assure, quand j'ai apporté le message, là, « si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Quand j'ai eu fini, ils se sont levés, ils ont applaudi, j'étais extrêmement ému. Terrible. Oui, là, nous avons une image qui est intéressante. Une souche pourrie, elle est morte. Nous étions tous morts. Et un jour, une semence est venue se planter au milieu. Pour nous, c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Il faut qu'il naisse de nouveau. Ce gamin semble regarder l'avenir. Je lève les yeux vers le montagne de difficultés. D'où me viendra le secours? Ben, ce n'est pas du monde ni de la souche pourrie sur laquelle il est assis. Mais c'est du messager de la paix que nous sommes tous. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ, ici, et puis un peu plus loin, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Un Éthiopien ne peut pas changer sa peau ni un léopard ses taches, mais Dieu est capable de faire sortir un beau papillon d'une chenille. Il est capable de purifier les cœurs les plus souillés et les rendre aussi purs que ces belles fleurs de la nature. Nous allons un peu plus loin, en Géorgie. Je me presse par contre. Très beau pays, mais extrêmement pauvre, mal exploité, à cause des invasions constantes de toutes les nations d'alentour, et depuis toujours, si bien qu'ils sont toujours avec des fortifications comme ça, mais même chez eux, ils ne font pas du rafistolage, leur maison, ils vont la bâtir, par exemple, en béton, ils ne vont pas la peindre, ils disent « c'est pas la peine, il va y avoir la guerre, on va tout recasser, il faut recommencer ». Donc c'est comme ça. Pays d'élevage, évidemment, beaucoup d'élevage, mais ils ne savent pas l'exploiter non plus, la vigne omniprésente. Là, c'est un lézard, c'est pas un caméléon, c'est un lézard qui est venu nous passer entre les jambes. Il s'est arrêté quand il s'est aperçu qu'on le voyait. Alors, leur moyen d'autodéfense, c'est de changer de couleur, à peu près. Il est à moitié sous le vert, à moitié dans le gris. Hein. C'est pour échapper aux prédateurs, un épervier qui vient, s'il ne bouge pas, l'épervier ne l'attrapera pas, il ne peut pas le voir. Mais si jamais il bouge, il est fait. Donc il ne bouge pas, et là on aurait presque pu l'attraper à la main. Hein? Mais ne limitons pas dans notre témoignage de l'Évangile être du monde et de l'Église, et puis ceci, puis la politique, et puis voilà. Là je vous montre vite fait, alors la boulangerie artisanale, une femme, je ne sais pas combien de temps elle vivra, mais enfin elle a une vie extrêmement dure. Très tôt le matin, elle pétrit sa pâte. C'est la boulangère, donc une belle pâte. Alors, ils ont des fours verticaux. Ils font du feu avec des sarments dedans. Ils vont chauffer les murs à blanc. Et ensuite, elle va les nettoyer dès que le feu s'arrête. Elle a très, très chaud. Il fait très chaud dedans. Elle se met des gants. Elle a fermé en attendant pour se vêtir. Et là, elle va appliquer sa pâte sur les murs. Un peu comme un beefsteak sur une poêle qui n'est pas tefal, si vous voulez, il va se coller, vous pouvez retourner la poêle, ça ne bouge pas. Mais là, c'est pareil. Elle colle sa pâte et elle descend. Mais déjà là, elle est en apnée, on peut dire, elle ne respire plus, sinon elle se brûlerait les poumons. Et elle descend. Le pain est déjà cuit en haut. Et elle est à moitié, si on peut dire. Mais elle va descendre comme ça. Et après, donc, ils sortent le pain. Excellent pain cuit au, à la, comme ça à la braise, c'est fantastique. Mais quelle souffrance pour ces personnes. Alors, tout ça, c'est un peu du folklore aussi, là. Mais en Géorgie, ils ont beaucoup souffert par l'invasion russe, il y a 2 ans. Ils ont fait en sorte que l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie deviennent indépendantes, soi-disant. En fait, ils sont dépendants total de la Russie. Et c'est Sarkozy qui était venu s'interposer. Là. Donc, il y a eu la guerre avec toutes les souffrances qu'on peut s'imaginer, la course, les pleurs, le désastre. Donc, on est allé avec mon épouse là-bas, 1 an après. Des camps de réfugiés, la faim, évidemment. Sous des tentes, c'était au mois d'octobre, donc l'hiver, ils ont passé l'hiver sous des tentes avec un froid terrible. Et là, nous avons Levan Akhalmosoulishvili, qui lui est chirurgien, oui. Et son épouse est cardiologue. Mais j'en parlerai à la fin. Alors, elle est évangélisée, évidemment, là c'est côté Abkhaz, chez les Abkhazes. Tous les réfugiés ont été mis là dans des bâtiments désaffectés, sans eau, sans électricité, qu'un froid terrible. Et là, il faut apporter la parole. La parole. Grande écoute aussi des gens de l'immeuble, avec naturellement des questions posées aux enfants, avec des jouets, de tout qu'on distribue. Là, nous sommes dans une région aurifère, c'est-à-dire qui produit de l'or dans les mines. Alors les gens descendent, creusent, pour presque rien. Et les mines d'or appartiennent aux Azéris, l'Azerbaïdjan, donc des musulmans, qui exploitent ces régions-là. Mais naturellement, ce sont les Géorgiens qui vont au fond de mines. Voilà les bâtiments, comment ils sont. Ça, c'est ce qu'on appelle les bâtiments soviétiques. Il n'y avait pas du tout de revêtement. Et ça s'effrite, et c'est très sale. Le compteur électrique qui pourrait être visité par les enfants, mais c'est comme ça. Et là, nous avons un petit appartement qui sert donc d'église de maison pour ce quartier de travailleurs des mines. Je ne sais pas si vous voyez bien là l'écriture des Géorgiens, le géorgien. Ça n'a rien à voir avec le cyrillique. Hein. Voilà, des enfants comme partout. Alors le pasteur, c'est celui-ci, je ne sais plus son nom. Alors tous les pasteurs en Géorgie ont un métier. L'Église est tellement pauvre qu'ils ne peuvent pas les soutenir. Donc ils ont un métier. Lui, il est gardien des lingots d'or à la mine d'or. Ils auraient pu choisir un musulman. Mais non, ils n'ont pas eu confiance. Ils ont choisi le pasteur. Ils se sont dit, voilà, un homme qui respecte le livre, parce qu'ils appellent la Bible le livre. Et donc il lui confie les lingots d'or. C'est une marque de confiance, une reconnaissance, mais en même temps, c'est une épée de Damoclès, parce qu'on pourrait très bien l'attaquer pour venir prendre les lingots. Non, mais c'est la marque de confiance, là, avec Alexander Goss. Là, nous sommes dans un village où il y a beaucoup de musulmans, et voilà l'église, donc, locale, faite de moellons, vous voyez, bruts, pas question de mettre des frais. L'intérieur, il n'y a qu'une seule grande salle. Et là, il se réunit à peu près 40 enfants, toutes les semaines, l'école du dimanche, 40 enfants, dont 10 sont de foyers musulmans. Et parmi ces 10, il y a le fils de l'imam. C'est très curieux. Pourquoi ? Parce qu'il a dit à ses ouailles, voilà, vous pouvez aller là, parce qu'ils ne sont pas comme les orthodoxes. Les orthodoxes, si on a un enfant qui se blesse, ils ne le soigneront pas. Si vous allez là, à cette cabane-là, chez les évangéliques, ils donneront ce qu'ils pourront, mais ils vous viendront en aide. Donc, ils envoient leurs enfants à l'école du dimanche. Jusqu'à quand, ça, je ne sais pas. Il faut prier pour qu'il y ait des conversions dans ces milieux musulmans. Donc, distribution de bonbons. Et la grande surprise, la première fois que ça arrivait, une grand-mère musulmane a osé pénétrer dans un lieu non musulman. Et pour eux, ça a été vraiment très fort. Et elle venait tout simplement demander la prière pour son mari qui était hospitalisé. Ça ne s'était jamais vu. Et donc nous avons prié évidemment pour elle et pour son mari. Bien sûr, elle a son chapelet musulman, mais il faut prier pour cela, pour que les cœurs soient touchés. Là, c'est Philippe Duverger, qui est donc médecin et responsable d'une église, d'ailleurs, sur Lyon, et qui m'a accompagné, qui nous accompagne avec son épouse et qui donne des soins. C'est la famille Levan Ralmosoulishvili avec Tatiana, son épouse, et toute la famille. Ça, c'est le minibus que la mission leur a confié, un minibus grand confort, comme vous voyez. Quand ils sont venus nous chercher à l'aéroport, il n'y avait aucune lumière qui fonctionnait. Il était 3h du matin, on a roulé pendant près de d'une heure et demie dans le blackout complet. Je ne sais pas comment ils faisaient. Alors, il a une clinique qui est où il soigne gratuitement, lui et sa femme. Tout est gratuit. Là, ils vont opérer un garçon. Alors, vous savez, l'hygiène là-bas, il n'y en a pas de trop. Là, il est en train de lui ouvrir la main. Il lui a fait une anesthésie, mais à peine il a fait les piqûres, tac, il prend le bistouri, il coupe, il n'attend pas que ça marche. Le gars, il tombe dans les pommes et il est tranquille, il opère. Mais vous rigolez, mais c'est vrai, j'étais présent, puisque c'est moi qui ai pris ça. C'est Philippe Duverger, lui, il est médecin en France, il n'en revenait pas. Non seulement ça, mais regardez, il met sa blouse à l'envers, normalement il devrait être comme ça. Et il n'a qu'un gant. C'est l'économie. C'est comme ça. Alors ça, c'est un chirurgien dentiste. Lui n'est pas chrétien, donc il ne soigne pas gratuitement. Il veut quand même avoir un peu. Mais comme la politique de la clinique, c'est le soin gratuit, Levan prend du peu qu'on lui donne et il rémunère son dentiste. Natacha, avec ses soins. Voilà. Donc il est prédicateur aussi, il est responsable de 4 petites églises, dont une assez importante là. Alors le matin, il se lève, il est malade du cœur, très malade du cœur. Le matin, il se lève à 5 heures, il va travailler jusqu'à 8 heures dans son jardin. Il a un grand jardin, heureusement. Il peut faire ses légumes, il a des poules, il mange au moins une poule par mois, donc ça fait un peu de viande. À 8 heures, il se déshabille, il va à la clinique, il est chirurgien jusqu'à 14 heures. À 14 heures, il se change, il devient pasteur, jusqu'au soir, il ne sait pas quelle heure. Un homme consacré comme on n'en voit pas. Alors, c'est pas des on-dit, on est resté chez eux 15 jours. On les a vus vivre. Ils n'ont même pas l'eau courante dans leur maison. En étant chirurgien, lui, et elle, cardiologue. Imaginez-vous. Voilà, Natacha. Alors, les prédicateurs se suivent. Ils aiment beaucoup qu'on leur chante aussi. On a fait en duo. Bon, quoi, enfin, duo, c'est pas un duo, c'était quoi? À deux langues, deux chants, enfin, bref. Imposition des mains ou prière pour les mains, des mains aux malades. C'est moins 5, non? C'est au mois de septembre qu'on est allé, je crois, en Biélorussie. Maintenant, ça se brouille un peu dans ma tête. C'est un petit pays où 90% de la population ne parle que russe. Mais toute l'administration est biélorusse. Ils ont un vocabulaire et une écriture un peu différente. Bon, je passe. Alors là, on était stupéfaits. C'est une très belle ville, un très beau pays, tout neuf. Naturellement, c'est la dictature. Mais il y a quand même des bons côtés. Il y a beaucoup de propreté, il y a beaucoup de choses positives. Et là, on était stupéfaits. La Bibliothèque nationale. Regardez les deux fresques qu'il y a devant. Là. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qui est écrit là? Afin que l'homme de Dieu soit accompli propre à toute bonne œuvre, dans une multitude de langues. Là, exposé, une grande fresque qui fait plus de 10 mètres de haut, exposé là. Et vous pouvez aller dans la bibliothèque, vous aurez tous les ouvrages évangéliques, protestants et tout ce que vous voulez là-dedans. Liberté absolue d'aller dedans et de lire. Mais bien entendu, pour ce qui est du service, c'est plus difficile. Alors là, nous avons été invités par Victor Nemtsiev. Lui, c'est un savant qui a découvert pas mal de choses. Il a 24 brevets. Mais quand il s'est converti, il a dit, bon, ben maintenant, Seigneur, je t'appartiens. Et il a annoncé l'évangile. Il s'est converti par la femme de ménage qui a témoigné. C'est trop long à expliquer. Vous l'avez dans les numéros là-bas, n'hésitez pas à prendre des numéros, vous aurez tous en détail ce que je vous ai dit là. Donc il a la moitié de son bloc de chercheurs s'est converti à Christ. Et c'était des gens qui étaient reçus dans les palais, etc., en tant que chercheurs, en tant qu'érudits, etc. Donc ils allaient au concert, ils allaient partout et ils étaient reçus. Il a prêché, il a annoncé, etc. Une multitude de gens sont convertis dans les hautes sphères. Des musiciens, des professeurs de musique, de piano, de chant, etc. se sont convertis. Et là, ils ont fondé cette église qui était un taudis, qu'ils ont retapé, grande, assez grande. J'ai pu donc apporter la parole. Là, je vous recommande aussi Yuri Kim, qui parle 7 langues, dont 4 avec master. Le biélorusse, le russe, l'anglais et le français. Voilà. Ensuite, il connaît l'espagnol, l'allemand et le coréen. Sa mère est coréenne, et son père est coréen, sa mère est biélorusse. Mais il ne connaissait rien de l'Évangile. Et donc tous les messages que j'ai pu donner, il devait les traduire, mais c'est qu'il se les prenait pour lui. C'est incroyable, en quelques jours, l'évolution qu'il a eue, il nous posait une multitude de questions pour répondre à ses aspirations. Il avait été trompé, il était entré dans la secte Moon, etc. Donc il faut prier pour Yuri Kim. Réunion avec les femmes, une cinquantaine de femmes dans cette église qui sont venues à la réunion. Réunion avec les jeunes aussi, une cinquantaine de jeunes. Alors il donne tous ceux qui sont professeurs de musique au conservatoire, donc chrétiens, ont décidé de donner des cours gratuits de chant, de musique, de piano, de violon, etc. Gratuits dans l'église. Pour toute la population, tous les enfants des environs. Et bien entendu, quand ils sont un peu formés, à la fin de l'année, ils font un concert dans l'église. Ils invitent tous les parents. Et ça s'est multiplié, une multitude de conversions qui se sont faites. Alors ils les ont formés, et ils envoient maintenant, ils essaiment beaucoup. Ce frère que je vous ai montré, Nemtsiev, on peut dire, il a la tête d'une trentaine d'églises en 15 ans qu'il a fondé. Avec des responsables, mais vraiment enseignés. Donc là, ce sont des cours, du violon. Là, on va à Ostrowiec. On est allé un peu partout dans le pays, je passe. Voilà, un couple donc qui n'a pour vivre que 350 euros par mois avec leurs enfants. Le loyer ne le paye pas, c'est la mission qui a acheté un petit appartement dans un immeuble soviétique, donc rien que de béton. Alors l'intérieur met beaucoup des tapis pour ne pas être sur le béton, évidemment. Une autre église, là, l'église de l'Espérance, où j'ai eu la possibilité de parler, évidemment. Et là, vous avez un frère qui est responsable d'une autre église un peu plus loin, à Dribine, avec sa fille aînée. Pareil, ils n'ont pratiquement rien pour vivre. Il a un grand jardin, donc il fait tous son légumes, les fruits, etc., pour la famille. Ils avaient une vache à lait pour nourrir la famille, mais pour avoir du lait. Elle est crevée, la pauvre, c'est comme ça. Et donc, ils n'avaient pratiquement plus de lait pour les enfants. Là, ils attendaient leur 8e enfant. Il est né à Noël dernier. Donc, on a pourvu, on leur a envoyé pour acheter une vache, pour qu'ils aient au moins du lait pour la famille. Une autre église, Tchervienne, avec un responsable, là, qui est professeur de musique. Aussi, donc, il donne des cours dans son église-là, gratuits, et les gens viennent et écoutent l'Évangile par le même fait. C'est en semaine, il n'y a pas beaucoup de monde, donc, mais là, ils nous ont fait un goûter, et donc, je réponds à toutes les questions qu'ils peuvent poser, c'est très intéressant. Il y avait des orthodoxes, il y avait un peu de tout. On a fini par l'église de Grodno, à la frontière polonaise. Là, c'est une jeune fille qui est médecin pédiatre qui nous a accompagnés. Elle était horrifiée de ce que c'est. Vous savez que la Biélorussie est contre Tchernobyl. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de retombées et des enfants difformes, des masses de viande, on pourrait dire presque, tellement c'est affreux. Et là, il avait un enfant, on pouvait mettre sa, il a dit, on pouvait mettre sa main dans la poitrine. Mais on pouvait l'opérer. Mais les médecins, ses chefs ont dit non, on va le laisser mourir. On va le laisser mourir. Il était pourtant opérable. Donc ça lui faisait beaucoup mal. Et là, elle a fait une poésie, donc j'étais stupéfait parce que l'interprète, là, Kim, à ma droite, là, il changeait de couleur. Tellement il prenait les paroles qui étaient dites pour lui. C'était très émouvant. Donc il y a eu des baptêmes, là. Bon, ils ont l'habitude, les pasteurs, de se mettre en tenue comme ça, pour, soit en vert, soit en bleu, faire les baptêmes là-bas au fond. Imposition des mains aux deux baptisés, non pas qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, c'est fait, mais pour montrer que la communauté est une avec lui et qu'il est intégré comme membre dans l'Église de Jésus-Christ et que l'Église tout entière fait un seul corps. Ça, c'est le pasteur donc de cette Église. Ensuite, la scène, évidemment. Et le repas en commun, alors là, je peux vous dire qu'ils en mettent, hein. Quand vous sortez de table, il y en a encore autant sur la table, c'est pas compliqué. Ils mettent un paquet, c'est incroyable. On a chanté avec mon épouse, donc, sur le mont du Calvaire, à deux voix, c'était intéressant pour eux aussi. Voilà, on arrive au bout quand même, je suis en retard d'une 5 minutes à peu près. Jésus-Christ s'écria, que celui qui a soif vienne à moi, qu'il boive, allez à Christ. Et croire, celui qui croira en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il devient ambassadeur pour Christ. Il répand la parole. Il vit la parole. Il émane la parole dans son attitude, comme dit l'Écriture. Voilà, merci beaucoup pour votre accueil, pour vos encouragements, vos prières, votre suivi. Je vous rappelle notre site internet qui est intéressant à voir. Ou avec les liens, si vous voulez aller en Biélorussie, même c'est presque une encyclopédie qu'il a fait, cette Nemtsiev là, et vous pouvez cliquer sur les messages, ils sont en russe, mais vous cliquez sur comment on appelle, traduction, et vous pouvez le lire en français. C'est intéressant. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à Michel.